Alors, qu'espérez-vous? Qu'espérez-vous? Qu'attendez-vous? Quelle espérance avez-vous dans cette vie? Pensez à votre vie maintenant, à votre avenir même. Qu'est-ce que vous espérez? Peut-être que vous espérez une vie facile, tout simplement. Peut-être que vous espérez vous marier, avoir des enfants, et un jour des petits-enfants. Peut-être que vous espérez obtenir un bon travail, garder ce travail, profiter un jour confortablement de votre retraite. Ou il est possible que vous espérez tout simplement une opportunité de réussir dans la vie et dans vos projets, afin de pouvoir léguer quelque chose à la société. Il y a ceux parmi nous qui espèrent satisfaire leurs besoins de base et rien de plus. Il y a d'autres personnes qui espèrent vivre dans la stabilité politique et encore d'autres qui espèrent un monde sans guerre ou sans la crainte de la violence. Qu'espérez-vous? C'est l'espérance, après tout, qui nous motive, n'est-ce pas? C'est l'espérance qui nous soutient face aux difficultés. C'est l'espérance qui nous donne une raison de vivre. Mais malheureusement, l'espérance nous échappe. Dans un monde moins que parfait, l'espérance est élusive. Nous perdons l'espoir. Il y a encore des guerres. Les gens ont toujours faim. Et l'injustice n'a pas disparu. L'économie du monde est instable. Nos proches meurent des fois. Nos relations se brisent des fois. Nos carrières nous font défaut. Nos amis nous font défaut. Nous-mêmes, nous nous faisons défaut. Mais nous, les chrétiens, nous avons une espérance qui ne nous fait jamais défaut. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 12, nous parle d'une espérance vivante. D'une espérance vivante. Et donc, on va lire ce texte, 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 12, pour comprendre un peu plus cette idée de l'espérance vivante. 1 Pierre 1, 3 à 12. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous entressez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était ministre de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions afin que tu illumines le sentier devant nous par la puissance de ta parole. Accorde-nous, Seigneur, la clarté dans notre compréhension de ce texte et aide-nous à vivre selon ta révélation et pour ta gloire. Amen. Alors, ces versets sont vraiment construits autour de l'idée de l'espérance vivante. L'espérance vivante, comme on a vu dans la lecture de ce texte. Mais qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance est un mot ambigu qu'on emploie souvent sans vraiment réfléchir, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un mot difficile à définir. L'espérance, ça veut dire l'espérance, n'est-ce pas? Alors, souvent quand on espère quelque chose, on désire cette chose. On veut cette chose. On ne sait pas si ce désir va se réaliser, mais on souhaite qu'il se réalise, n'est-ce pas? Pour prendre un exemple de la vie actuelle, ma femme rend visite en ce moment à sa famille aux États-Unis. Alors, si je dis que j'espère qu'elle va revenir en France, ça peut vouloir dire que je veux qu'elle revienne, mais ce n'est pas sûr, d'accord? Ça peut vouloir dire que ses intentions sont cachées, que je n'ai aucune idée de ce qu'elle va faire, finalement. Ça peut vouloir dire qu'une décision définitive de sa part n'est pas encore prise, mais que je reste optimiste quand même. J'espère revoir ma femme. C'est l'idée de l'espérance. Mais dans un autre sens, un sens un peu différent, mon espérance peut être fondée plutôt sur une réalité certaine. Ça peut vouloir dire que j'aimerais bien revoir ma femme quand elle rentrera. Et à son tour, elle aimerait me revoir aussi. Ça peut vouloir dire qu'elle a un billet de retour et qu'elle s'est déjà installée dans l'avion. Alors, l'espérance vivante mentionnée par l'apôtre Pierre englobe ces deux visions d'espérance. Oui, c'est un désir. Oui, c'est un souhait. Oui, c'est une aspiration. Mais c'est aussi une réalité qui transcende le temps, qui est déjà certaine, qui est fondée sur les promesses de Dieu. L'espérance accompagne la foi. Elle fait partie de la confiance qu'on met en Dieu. Mais qu'est-ce qui assure la validité de votre espérance? Qu'est-ce qui garantit que votre espérance n'est pas une douce illusion chimérique? C'est une bonne question, pas facile d'y répondre. Mais heureusement, ce texte nous aide. Ce texte nous dit que notre espérance est sûre si cette espérance correspond à la réalité, comme je viens de le mentionner. Votre espérance est sûre si elle est attachée à l'œuvre de Dieu. Votre espérance est sûre si elle coïncide avec la foi en Christ. Christ qui a vécu parmi nous les êtres humains, qui a été mis à mort par nous les êtres humains, qui a été vu par nous les êtres humains après être ressuscité d'entre les morts. Et si notre espérance pour l'avenir repose sur le Christ vivant, notre espérance est vivante elle aussi. On peut imaginer quelqu'un, peut-être un jeune homme en bonne santé, bien formé dans son métier. Il est optimiste, il est content dans la vie. Il a toutes sortes de possibilités devant lui. Il a un genre d'espérance pour son avenir. Mais cette espérance est-elle une douce illusion chimérique? C'est ça la question. Ça dépend si cette espérance est vivante, c'est-à-dire si elle s'appuie sur Dieu, ou si elle est attachée à Dieu qui nous offre la vie éternelle. On peut imaginer quelqu'un d'autre, cette fois peut-être une vieille femme couchée sur un lit à l'hôpital. Elle ne peut bouger que difficilement. Sa respiration suit un rythme irrégulier. Elle arrive à la fin. Il n'y a rien devant elle dans cette vie. Il ne reste plus d'espérance pour elle dans cette vie sous le soleil. Mais est-ce que ça c'est tout? Encore une fois, ça dépend La réponse dépend de si son espérance est vivante, c'est-à-dire attachée au Dieu qui nous offre la vie éternelle. La raison pour laquelle nous sommes souvent désespérés, c'est parce que nous avons placé notre espérance dans des choses éphémères. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous parle d'une vraie espérance, d'une espérance vivante. Elle est animée par une réalité objective. Elle est animée par une relation avec le Dieu de la vie, par la foi en Christ. Une espérance vivante, c'est l'héritage de ceux qui mettent leur foi en Jésus. Dans ces versets, Pierre s'adresse aux bénéficiaires de cette espérance. Il s'adresse aux destinataires d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se suer, ni se flétrir. Cet héritage est le salut prévu selon la volonté de Dieu, accompli par l'œuvre de Jésus à la croix, appliqué dans l'Église par le Saint-Esprit dans ces derniers temps. Et encore une fois, cette espérance ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Cet héritage n'est pas quelque chose que nous devons produire par nous-mêmes. C'est quelque chose que l'on reçoit, qui nous est donné. Je sais que j'ai raconté dans une autre prédication récemment l'histoire de ce que j'ai reçu comme héritage après le décès de mon arrière-grand-mère. J'ai mentionné le fait qu'un camion de livraison est arrivé devant notre maison un jour pour livrer mon héritage. Peut-être que vous vous souvenez qu'à l'arrière de ce camion, il y avait non pas des richesses ou des meubles antiques, mais un congélateur rempli de fruits de bois congelés. J'ai bénéficié d'un héritage de fruits de bois, des tartes à la framboise pendant 5 années. Donc voilà, c'était ça mon héritage. Mais on peut imaginer un meilleur héritage. On peut imaginer qu'on hérite d'une grande maison dans la campagne ou d'un bel appartement dans un quartier chic. On peut imaginer qu'on hérite du compte épargne d'un oncle riche, n'est-ce pas? On peut imaginer toutes sortes d'héritages vraiment sympas. Mais Dieu nous offre quelque chose de mieux. Mieux d'un château, mieux qu'un tarte à la framboise, Dieu nous offre la régénération de notre esprit déchu. Il nous offre la résurrection de notre corps au dernier jour. Le meilleur héritage possible, c'est l'espérance qui est donnée à ceux qui croient en Jésus. L'espérance que Dieu nous donne est une espérance qui nous soutient lors des épreuves aussi, des épreuves dans cette vie. L'espérance que Dieu nous donne nous rappelle que le meilleur est encore à venir. Christ a souffert, il a traversé des épreuves horribles, mais il a vaincu cette souffrance. C'est pourquoi il peut nous offrir une espérance qui dépasse nos épreuves. Mais dans le but de dépasser ces épreuves, l'espérance est jointe aux épreuves aussi, selon ce texte. Une foi, une espérance éprouvée, c'est comme de l'or purifié qui brille de la gloire de Dieu. Face aux épreuves, on ne voit pas très bien le bon résultat de notre foi. Mais la vraie espérance en Christ signifie que le meilleur est encore à venir. Selon ce texte, les chrétiens aiment un Dieu qu'ils n'ont pas vu. Ils espèrent une vie meilleure. Ils espèrent quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, mais qui est réel et indiciblement glorieux. Quand on parle de cette espérance, on parle du déjà, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Le meilleur est là, mais le meilleur arrive. Et je vais essayer d'illustrer cette idée. Un ami à moi a récemment commandé une voiture toute neuve, un BMW. Il a choisi le modèle, bien sûr, il a choisi le moteur, il a choisi la finition, la couleur et tout le reste. Il a fait confiance aux vendeurs et aux constructeurs en comptant sur eux pour que le bon produit soit livré. Il a sûrement entendu avec impatience la livraison de sa voiture. La voiture était bien commandée, une partie était même payée. Et donc, même avant d'avoir sa voiture garée devant la maison, il était déjà propriétaire de la voiture. Et de la même manière, nous sommes propriétaires d'une espérance qui sert de dépôt. Ça sert de dépôt, en quelque sorte, qui nous soutient lors des épreuves et qui pointe vers quelque chose de meilleur. Et ça, c'est exactement ce que Pierre illustre dans les versets 10 à 12, quand il parle des prophètes qui soupiraient après la venue de leur Messie et la réalisation de leur espérance. Pierre nous rappelle qu'on ne peut pas retourner dans le passé, qu'il faut se tourner vers l'avenir. Et nous voyons cette espérance pour l'avenir tout au long de l'Ancien Testament. Les prophètes ont souffert le rejet et les moqueries du peuple, mais ils ont espéré l'accomplissement de leur prophétie. De même, le roi David a souffert en étant chassé par Saül, mais il a espéré en comptant sur la promesse d'un héritage que Dieu lui avait fait. Il y a aussi Abraham et Sarah qui ont souffert la honte de ne pas avoir un enfant. Mais finalement, ils ont appris à croire au Seigneur et à projet bienveillant pour eux. Les croyants sont appuyés sur ce que Dieu a fait afin de tourner vers ce que Dieu fera aussi dans l'avenir. Même la souffrance des animaux sacrifiés au temple, c'était l'ombre d'une meilleure réalité, de quelque chose à venir, quelque chose accompli en Christ par sa propre souffrance. L'espérance transcende le temps. Vous voyez? C'était pour notre bien que le Seigneur a révélé son plan rédempteur aux prophètes. Les prophètes n'ont pas vu le Christ, mais ils ont espéré. Ils ont espéré quand même. Imaginez qu'en jouant au loto, vous gagnez 20 milliards d'euros, ou une somme tellement exceptionnelle que il est ridicule en fait. 20 milliards d'euros, c'est incroyable. Vous êtes naturellement ravi jusqu'à ce que vous découvriez que ces 20 milliards d'euros ne vous seront pas livrés à vous, mais à vos arrière-arrière-petits-enfants, si vous en avez un jour. Ce que Pierre est en train de dire, c'est que les prophètes ont gagné au loto, en quelque sorte. Le Messie allait venir, pas pour eux, mais pour leurs arrière-arrière-petits-enfants. C'est ça l'idée. Mais contrairement à nos 20 milliards d'euros hypothétiques qui ne nous serviront à rien rétroactivement, l'œuvre de Christ à la croix et l'espérance attachée à cette œuvre transcendent le temps. Contrairement aux actions de nos arrière-arrière-petits-enfants qui n'ont aucune incidence sur notre vie maintenant, l'œuvre de Christ transcende le temps. La promesse du salut futur constitue une raison suffisante pour les prophètes de se réjouir, de mettre leur foi en Dieu et d'espérer. L'espérance vivante a été rendue possible par l'œuvre de Jésus à la croix. C'est pourquoi nous regardons en arrière aujourd'hui vers l'œuvre de Christ il y a 2000 ans. C'est pourquoi les croyants dans l'Ancien Testament ont regardé en avant, vers l'avenir, vers l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pourquoi même les anges, dans ce texte, regardent intensement pour voir et pour comprendre les mystères de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi la mort et la résurrection de Jésus est le centre de toute histoire. Alors qu'espérez-vous dans la vie? Qu'espérez-vous? Qu'attendez-vous? Est-ce que vous avez mis votre espérance en quelque chose d'éphémère? Ou est-ce que vous avez bien mis votre espérance en Dieu? La réponse à cette question fait toute la différence. C'est sûr que vous allez traverser des difficultés dans la vie. C'est sûr que vous allez connaître des épreuves. Je vous garantis qu'il y aura des moments où vous serez tenté d'abandonner tout espoir, toute espérance. Mais je vous encourage à persévérer dans le Seigneur. L'espérance, ce n'est pas juste une question, la question de comment vous vous sentez en ce moment. La vraie espérance accompagne notre confiance en Dieu. C'est une disposition du cœur. Cette espérance vivante, c'est le moteur, en fait, qui propulsait les apôtres, qui les a incités à chanter les louanges de Dieu, même en prison. Cette espérance vivante, c'était pour les premiers chrétiens le carburant qui faisait brûler en eux le désir de témoigner de Dieu même dans leur souffrance. Cette espérance vivante, c'est ce qui encourage les chrétiens qui sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Et je vous encourage à mon tour de laisser cette même espérance vivante vous guider et vous accompagner chaque jour. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de cette espérance vivante que tu nous as accordée par ta grâce, par l'œuvre de Jésus à la croix. Fais en sorte, Seigneur, que nous vivions chaque jour dans cette espérance. Au nom de Jésus. Amen.